Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour cette émission Sine qua non uniquement dédiée au cinéma, émission du mois d'octobre, durant laquelle nous commenterons les sorties de la fin septembre et les sorties de ce début de mois d'octobre. Comme d'habitude, nous vous avons concocté un petit programme éclectique que nous commenterons avec Adrien, Jean-Pierre et Florence autour de cette table. Une dizaine de films au programme, donc dans des genres variés. On commence sans plus attendre avec Un peuple et son roi de Pierre Scheler.
Nous avons des choses à vous dire.
Messieurs, Paris souffre. Paris a faim.
Nous sommes des centaines, peut-être des milliers. Faut que les puissants entendent nos voix.
Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu?
J'ai vu le soleil.
Il m'a touché la main.
J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête.
Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Vive l'Assemblée nationale !
Prenez bien soin de mon pauvre Versailles.
Le roi fuit !
Il n'y a pas plus ignoble comme trahison.
Ce jour verra le triomphe des vertus civiques.
S'il faut combattre, il faut combattre.
L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous.
Vive la liberté !
Français, reprenez vos droits.
Un peuple et son roi de Pierre Scheler. C'est un réalisateur qui s'intéresse à la question politique. C'était déjà le cas dans Versailles et dans l'exercice de l'État. Cette fois, c'est la Révolution française qui est mise au programme. Le film démarre en 1789 et s'achève en 1793 avec l'exécution du roi. On assiste donc à la prise de la Bastille, au débat dans les assemblées constituantes, dans la Convention. Et puis, surtout, on assiste vraiment aux discussions entre membres du peuple, chose qui n'a pas forcément été montrée jusque-là au cinéma à propos de la Révolution française, qui se centre souvent quand même sur les grandes figures de l'histoire. Là, moi, ce qui m'a plu, c'est la précision historique. J'ai beaucoup apprécié d'avoir les paroles exactes des députés, par exemple, à la Convention ou à la Constituante, parce que Pierre Scheler est vraiment allé fouiller les archives de la BNF à Paris. Hein, tout est numérisé. Il a retrouvé des tas de discours vraiment recopiés entièrement, des chansons populaires aussi, des caricatures. Enfin bon, son film est très documenté. Et ça donne des scènes avec vraiment des précisions, des petits faits vrais, des choses qui se sont vraiment passées. Ça, j'ai trouvé ça très beau. J'ai adoré aussi la manière de filmer. Il y a des scènes qui sont presque poétiques. Hein. C'est bizarre de dire ça sur un film de ce style qui montre quand même une histoire très sanglante. Mais je pense à une scène, par exemple, où le personnage de Gaspard Ulliel est assourdi par un boulet de canon, où on a la fumée de cette poudre de canon et où il voit tous les protagonistes de la révolte défiler en silence. C'est une très belle scène et il y en a plein d'autres comme ça. Donc moi, je trouve que c'est un film vraiment réussi. Il m'a peut-être juste manqué une petite pointe d'émotion, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages. D'ailleurs, avec un beau casting pour les incarner. Hein. J'ai cité Gaspard Ulliel, mais il y a aussi Louis Garrel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Noémie Milowski, entre autres. Donc les acteurs sont très justes, mais il y a trop de personnages pour qu'on puisse vraiment s'attacher aux uns ou aux autres. Et J'en suis ressortie quand même assez peu émue, mais en trouvant que c'était un très beau film. Jean-Pierre n'est pas d'accord, mais
non,
il a le droit d'avoir été ému.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais effectivement, c'est un film qui passe trop vite parce qu'il dure 2 heures. Et condenser en 2 heures ces 3 années terribles et glorieuses en même temps, et enthousiasmantes parfois, c'est un peu dur. On sait que Pierre Scheller aimerait tourner la suite à partir du 1er janvier. 1793, hein, La Terreur notamment. Oui. Alors, est-ce qu'il pourra le faire ou pas, c'est pas encore sûr, tout dépend de l'accueil fait au film. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est vraiment le peuple qui est au premier rang, quoi. C'est avec ses ouvriers, avec ces gens qui comprennent pas très bien ce qui se passe, qui se révoltent sans toujours comprendre les tenants et les aboutissements. Ça, c'est très bien, avec des acteurs formidables. Adèle Haenel au premier plan, là, qui est vraiment la femme révolutionnaire, et c'est bien qu'on mette une femme au premier rang dans un film de ce genre. Mais par exemple, Laurent Lafitte, qui fait un Louis XVI assez inhabituel, parce qu'au cinéma, on présente toujours Louis XVI comme un bedonnant vieux, alors qu'il est mort à 36 ans quand même, il ne faut pas l'oublier, et que c'était un sportif, un chasseur, etc.
Donc c'est un film qui est proche de son peuple au départ, chose qu'on ne voit pas forcément.
Tout à fait, mais le roi...
Il rencontrait le peuple.
Très longtemps, le peuple ne voulait pas du tout se débarrasser du roi, il voulait rester en royauté, mais en pensant que le roi... quand même ferait des réformes que le peuple demandait. Alors le roi qui se prenait le fils de Dieu, évidemment, n'a pas voulu, et c'est ce qui a précipité sa chute. Mais tout ça, je trouve, c'est très bien raconté, très bien filmé, très documentaire, avec une caméra qui s'attache aux gens, aux gros plans de visage, aux mouvements de foule, comme ça. Non, c'est vraiment un film à recommander sur un sujet qu'on n'a pas fini de traiter, mais qu'il est bon de reparcourir de temps en temps.
Exactement. Donc, comment réviser sa Révolution française avec Un peuple et son roi de Pierre Scheller ? Il vous suffit d'aller au Pathé ou au Méliès. On change de registre avec une comédie cette fois. C'est le nouveau film de Benoît Delépine et Gustave Carverne, I Feel Good.
Monique !
Qui c'est celui-là ?
Mon frère, c'est Jacques. Il s'appelle Jacques.
Moi, comme je dis toujours, hein, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie.
Vous penserez à votre carte bleue ?
Oui, Yannick.
Monsieur Porin !
Accueillir ceux qui n'ont rien, c'est le principe de tous les Emmaüs.
Bon, si tu restes, faudra bosser.
Oui, non, mais bien sûr, c'est prévu. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage.
Je voulais inventer un truc simple, mais qui me rendrait riche. Comme le Rubik's Cube ou les séries américaines. Oh. Oh.
À ton avis, pourquoi je me suis fait chier, hein, trouver une idée géniale.
C'est quoi ta grande et belle idée ?
C'est de rendre les petites gens beaux.
T'as un gros potentiel de séduction, hein. Ça dirait de sortir de ta chrysalide.
Dis-moi le secret de ta réussite, s'il te plaît, Jacques.
Ce qui compte maintenant, c'est l'individu.
Tu connais la Trump Tower ?
Non, j'y suis jamais allé.
Bah, tu vois, là, je verrais bien ma tour. La Pora Tower.
Oh. Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme. Jamais. Merde. Pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola.
Jacques, jusqu'à présent, on a réussi à vivre ensemble sans que l'argent nous pourrisse. C'est beau.
C'est beau ou pas selon sa sensibilité. Je crois que nous avons 4 avis différents sur ce film autour de cette table. Oui, peut-être. En tout cas, c'est I Feel Good, donc le dernier film de Delépine et Carverne. Le dernier en date, c'était Saint-Amour en 2016. Donc, on retrouve des thèmes que les deux réalisateurs aiment traiter, notamment le fait que le film se situe chez les entre guillemets petites gens, puisque là, on est dans une communauté Emmaüs, une communauté qui existe vraiment. C'est celle de l'Escarpot qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est d'ailleurs de là qu'est partie l'idée du film. Les réalisateurs ont découvert cette communauté qui peut rappeler, je ne sais pas si vous connaissez, des villages comme Christiana, vous savez, qui sont des espèces de friches artistiques en même temps. Parce que dans ce village Emmaüs, donc, tout est recyclé et utilisé pour des créations artistiques. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est assez intéressant et qui, à la base, est un très bon sujet de film, je trouve. Mais, c'est là qu'arrive le mais pour ma part, J'ai trouvé qu'au final, le film se réduisait à une comédie grossière. Et je suis très déçue parce que j'aime l'humour absurde et décalé de ces deux réalisateurs. Et là, pour moi, ça s'est réduit à un petit film moraliste, avec moralisateur plutôt, avec Dujardin qui joue le gros con, qui est obsédé par l'argent et qui ne pense qu'à s'enrichir. Et puis tous ceux d'Emmaüs, bon, qui sont bien gentils, un peu bêtes, mais finalement très gentils, qui ont le cœur gros comme ça, et qui cultivent les valeurs de l'amitié sans se préoccuper de l'argent. J'ai trouvé que c'était un petit peu simpliste. Et puis, le film m'a même parfois mise mal à l'aise. Alors, au début, je trouvais ça assez sympathique. Et puis, plus le temps défilait et moins je voyais l'intérêt, plus je trouvais qu'il se moquait quand même de ces gens d'Emmaüs. Alors que je sais très bien que ce n'est pas le but des réalisateurs, au contraire. Donc, j'en suis ressortie avec un sentiment mitigé. Et j'avoue qu'au final, je suis quand même plutôt négative sur ce film. Alors, est-ce que je donne la parole à un de mes partisans ou un de mes détracteurs tout de suite ? Allez, Adrien, bon, un de mes détracteurs.
C'est un film que j'ai adoré. Alors, à chaque fois, je vais les voir avec appréhension, les films de Delépine et Carven, parce que c'est 1 sur 2 en général. Altra, j'avais adoré. Avita, j'avais détesté. Mammouth, j'avais détesté. Louise Michel, j'avais détesté. Et par contre, la dernière trilogie. Mais Saint-Amour, Near Death Experience et celui-là, Le Grand Soir, j'avais pas aimé. Et donc, j'avais une appréhension. Et surtout que j'avais très peur du rôle de Jean Dujardin au milieu de leur univers. Et c'est vraiment un film magnifique. Il faut absolument y aller, il faut même aller le revoir parce que les plans sont tellement composés, c'est tellement riche.
Mais je me casse, allez.
On dirait des tableaux, en fait, on dirait un film de Coris Maki en bien. En plus, ça m'a fait penser à la chanson des Fatal Picard, Mon père était tellement de gauche. Il y a des détails, mais qui sont c'est à vrai. Mourir de rire, genre le pain de parfumerie sur le rétro de la voiture CGT. C'est très très
c'est
drôle.
Vrai que le père de Dujardin et Yolande Moreau, qui jouent les frères et sœurs, était tellement de gauche comme dans la chanson des Fatal Picard.
Voilà, c'est très drôle. Yolande Moreau avec ses dreadlocks, mais c'est vraiment la joie absolue. En plus, à un moment, il y a un plan culotte quand elle s'allonge sur son lit. Bref, c'est un régal, ce film. Et beaucoup de gens lui ont reproché d'être une succession de gags, mais moi, je trouve que narrativement, ça marche énormément. Et en plus, il y a tous leurs potes dedans. Donc, il y a Moussa Hakim de Zebda, il y a beaucoup d'auteurs de BD des requins marteaux qui jouent des rôles. Donc, c'est assez brillant. Et la manière dont il filme les décors aussi, c'est très beau, notamment le petit train touristique de Pau ou le funiculaire, c'est vraiment touchant.
La maison à l'envers dans Emmaüs.
Mais je pourrais en parler des heures, tellement j'ai aimé ce film et tellement je pense que c'est un film riche qui regorge de détails. Et là, je me pose la question sur comment on verra l'œuvre de Delépine et Carverne avec le recul, parce que c'est vraiment pas de la télé au cinéma, c'est vraiment, ils font vraiment du vrai cinéma. Et ce film a du succès parce que les gens les connaissent par la télé. Et c'est merveilleux quoi, de donner ça aux gens, c'est une générosité folle. Les plans finaux sur les personnes qui travaillent à Emmaüs sur la chanson de Zebda sont merveilleux. Bref, allez le voir et allez le revoir.
Jean-Pierre, il faudrait que tu le revoies.
Bah oui, je peux, sans doute, parce que je suis parti au milieu de ce film, exactement comme j'avais fait pour Mammouth de Bruno Dumont. Alors j'ai loupé le plan de culotte, et là je suis vraiment navré, parce que j'aurais peut-être aimé pendant une seconde ou deux. Mais effectivement, c'est un ensemble de sketchs ridicules, grossiers, vulgaires. Je sais pas quoi dire de ce film, tellement c'est nul, quoi. C'est, ça veut parler des petites gens, mais d'une manière tellement méprisante qu'on sait plus quoi dire, quoi. La pauvre Yolande Moreau, dans un rôle qu'elle aurait dû refuser tellement elle est tournée en ridicule. Je comprends pas, mon cher ami Adrien, comment tu as pu aimer ce film. Moi, c'est un film de merde. Voilà, et je m'arrête là.
Oh là là. Allez, on va une note positive pour la fin avec Florence.
Bah moi, je suis pas du tout d'accord avec vous deux. Moi, je soutiens Adrien. Et moi, c'est plus le côté, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Moi, ça m'a touchée. J'ai trouvé qu'on voyait vraiment... Alors, évidemment, le trait est très noirci. C'est vraiment très manichéen aussi, où ça va être le capitalisme et l'entrepreneuriat qui sont montrés comme des valeurs qui sont... Enfin, qui, dans notre société, sont quand même les valeurs clés, qui sont là-dedans, sont complètement décriées et tournées ridicules. Et par contre, on va mettre la solidarité en avant et on va même voir cette solidarité poussée à l'extrême, jusqu'à l'abnégation totale de tous les membres de la communauté.
Mais
parce
ça,
que
ça,
l'union
chouette,
fait la force.
Ça. C'est très chouette. Si c'était pas montré de manière simpliste, comme dans un dessin animé pour
mais
enfants
non.
de 3 ans.
Mais j'ai pas trouvé que c'était montré de façon simpliste, parce que justement, c'est plein de petites choses qui montrent l'attachement que, par exemple, Yolande peut avoir à sa voiture, avec son vide-poche, etc. Et après, on va voir
qu'il contient.
Mais on va voir qu'elle est prête à tout pour son frère. Enfin, alors que lui, il est prêt à rien du tout. Quand elle a eu besoin de lui, il était pas là. Mais voilà, malgré tout ça, elle va rester solidaire. On va continuer à voir la bonté d'âme à travers tous ces personnages. Et après, oui, bien sûr, c'est pas des gens qui sont beaux, lissés, ils ressemblent pas à nos chers représentants du CAC 40. Mais après, ils sont eux-mêmes, ils sont droits dans leurs bottes, ils sont fiers. Et moi, j'ai trouvé que c'était des belles valeurs et j'ai trouvé ça drôle et que c'était pas en se moquant d'eux. Enfin, ou un peu, mais c'était pas fait de façon méchante, en tout cas. Enfin, moi, je l'ai pas senti comme tel dans la rue.
Non, c'est pas leur but, dans la, ça, dans on le sait, hein, au contraire.
Ouais. Et puis, dans la séance, tout le monde riait. Enfin, c'était... Il y avait vraiment une bonne ambiance qui se dégageait.
C'est vrai que la scène d'échange de crachats, c'est super drôle.
Bah oui, oui.
Ah bon, ça me fait mourir de rire. Parce que moi, non. Bah,
surtout que c'est pas au premier plan. Et vraiment, je trouve ça exceptionnel comme scène. Je trouve ça très drôle.
Ouais,
et...
on a envie de le faire avec sa voisine, c'est sûr.
Bon, donc...
Oui, non, mais on est dans une autre réalité.
Je pense que vous serez obligés d'aller voir ce film. Hein. Moi, c'est sûr que ce n'est pas le film que je recommanderais ce mois-ci. Mais vous avez vu, Adrien,
attends, la scène avec
Florence
Internet, quand même. Celle-là, elle était drôle.
Laquelle?
Parce qu'à un moment, il demandait à un monsieur comment il en était arrivé là et ce qu'il faisait avant. Et chaque fois, il y a Internet qui arrivait et qui a réduit sa vie à néant.
Oui.
Et mais voilà, et puis en remontée, il était, voilà, le Minitel, etc. Enfin, des tas de choses.
Oui, c'est vrai. Non, mais il y a quelques bonnes petites scènes, quelques traits d'humour qui fonctionnent, mais pour moi, ce n'est pas suffisant.
Et en plus, la manière dont c'est écrit, Jean Dujardin emploie souvent des leitmotifs comme Molière, genre le pauvre homme, Jean, il dit souvent j'y pense, et c'est vraiment un tartuffe exceptionnel. J'ai adoré ce film, vraiment, c'est très littéraire, très plastique, il faut absolument y aller, c'est merveilleux.
Jean-Pierre est dépité, il est sous la table.
Et juste pour parler des coulisses de Sine Qua Non, Jean-Pierre m'avait dit « tu vas détester ce film, vas-y ».
Bon, donc n'hésitez pas à nous écrire sur le site internet de la radio, de Radio Campus, si vous voulez nous faire part de vos réactions. C'est I Feel Good de Delépine et Carvendre, que vous pouvez voir au Pathé ou à la Nef. On va enchaîner avec un film sur lequel je suis sûre que nous ne serons pas d'accord encore. C'est un film ukrainien de Sergueï Lonidza, Donbass.
Фашик, блядь. Ебать ту Люсю. Фашиста поймали.
Воно. Я журналист. Журналист. Окей? Не фашист.
Гитлер капут.
Фашист плохо, очень плохо.
Мы рады поздравить вас с праздником любви и молодости.
Ребята, кто командир?
Вот он командир.
Я командир. Вон, малый командир.
Я?
Нет.
Кто командир? Ну, ребята... Я командир.
Мне позвонили, сказали, машину нашли.
Ну и...
Вот она.
Это твоя машина.
Моя?
Вот на нее и пиши.
Это ж грабеж.
А мы что, на велосипедах должны ездить? Тебя от фашистов защищать.
Мама! Мама, блядь, открой двери, блядь! Че стали?
Donbass, c'est le quatrième film de Sergueï Lonidza, film ukrainien qui s'intéresse à la région du Donbass, région de l'est de l'Ukraine, mais surtout à la guerre hybride qui y est menée, hein, qui est une guerre entre des gangs séparatistes. Alors, une partie est soutenue par l'armée ukrainienne, une autre partie par les troupes russes. Voilà ce que j'ai compris en lisant des choses sur le film et non pas en le regardant, parce qu'en le regardant, je n'ai rien, mais alors rien compris. Il faut savoir que ce film est constitué de 13 épisodes, 13 espèces de sketchs qui durent, hein, parce que le film dure quand même 2 heures au total. Chacun de ces épisodes est tiré d'une anecdote ou d'un fait réel qui s'est déroulé entre 2014 et 2015, et le réalisateur les a donc mis bout à bout pour constituer une espèce de comédie burlesque très noire en même temps sur ce conflit ouvert et sur toute la corruption qu'il peut y avoir en Ukraine aussi en ce moment. Donc c'est un film très cynique aussi, très critique. Je suis désolée de dire ça, mais je l'ai vraiment détesté. Je me suis ennuyée, j'ai failli m'endormir. Et
elle n'a pas réveillé quand même, heureusement.
Voilà, Jean-Pierre m'a donné 2-3 coups de coude et je l'avoue, je suis partie avant la fin, décidément.
Chacun choisit son tour. Ouais.
Donc voilà, je le précise parce que peut-être que j'ai vu un peu plus de la moitié, j'ai peut-être raté les meilleurs sketchs hein, parmi les 13 de ce film. Donc je ne peux pas vous dire de ne pas y aller. Peut-être que le film est un chef-d'œuvre pour sa deuxième moitié, Adrien.
C'est quoi l'expression ? C'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Parce que moi, j'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça merveilleux. Je trouve ça génial. Tu dis que c'est une comédie. Si on accepte de rire pendant une scène de torture de 12 minutes, quand même, parce qu'à un moment donné, les militaires vont prendre quelqu'un qui n'est pas de leur camp, parce que moi aussi j'ai eu des difficultés à savoir qui était séparatiste, qui était du côté ukrainien, qui était du côté russe. On ne sait jamais en fait, ils jouent sur leur ambiguïté. Et en plus, on a les lieux où se passent les actions, mais on n'a pas dans quel camp ils sont. Et du coup, à un moment donné, on prend quelqu'un qui a trahi, on l'attache à un poteau et des jeunes vont venir l'humilier avec une pancarte et faire des selfies et lui cracher dessus. Et une vieille dame va le taper et on voit comment la foule s'agglutine autour de lui et le tape. Et, enfin voilà, disant des punchlines très drôles.
Je précise que quand j'ai dit comédie, j'ai dit burlesque et noir et cynique mais je pense à des scènes où on voit la corruption de certains politiques. La scène où il y a le politique qui inspecte l'hôpital et qui décrit tout ce qu'il trouve comme viande congelée dans les frigos, par exemple.
Mais ça, c'est très drôle. On peut compter le nombre de personnages corrompus et le nombre d'enveloppes qui se passent de main en main dans ce film parce que c'est assez hallucinant et c'est vraiment un film d'une virtuosité incroyable. Les mouvements de caméra sont superbes. C'est des plans séquences géniales et la fin est d'un cynisme, mais sans nom quoi. À côté Michael Haneke, c'est Martine à la plage, vraiment tellement c'est dur.
Et je suis tout à fait d'accord, puis les plans séquences de Michael Haneke sont plus beaux pour moi.
Oui, pour toi, mais là c'est vrai qu'il fait un peu bon élève, des fois c'est tellement propre et bien fait que des fois on a envie de dire lâche-toi un peu, mais c'est quand même un film magnifique et exceptionnel, et j'aimerais bien savoir ce que Jean-Pierre en a pensé, le Docteur S film de guerre.
C'est à moi. Sans avoir été vraiment enthousiaste, je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est pas finalement si difficile que ça d'y rentrer, parce que contrairement à ce que tu disais, la plupart des séquences sont du côté des mercenaires russes. C'est pas vraiment des gangs, mais c'est des mercenaires qui tournent effectivement au gangstérisme, qui sont aux ordres des Russes et qui sont appelés des séparatistes, hein, parce qu'ils veulent que une partie de l'Ukraine soit réintégrée à l'URSS. Et ce qui est assez marrant, et ce qui est assez typique, je dis marrant entre guillemets, bien entendu, c'est que pour ces mercenaires russes, tous les autres sont des fascistes. Et il y a une scène assez très typique à ce moment-là, où il y a un journaliste allemand qui veut faire une enquête. Alors il arrive auprès de ces mercenaires russes, qu'il traite évidemment de fasciste parce que c'est un Allemand. Alors lui dit, mais moi j'ai 30 ans, j'étais pas né pendant la guerre. Et le mercenaire russe lui dit, oui, si toi t'es pas un fasciste, ton grand-père l'était. Et ça, c'est très caractéristique, ce film qui est très acéré, effectivement. Alors il y a la scène que décrivait Adrien, où un pauvre type, on sait pas exactement ce qu'il est, qui est attaché à un poteau en pleine rue, tous les passants lui crachent dessus. Il y a une autre scène où un quidam à peu près désengagé se fait piquer sa très belle voiture par un capitaine à la solde des Russes qui de manière très cauteleuse, qui discute et qui finalement qui part avec la voiture. Et c'est tout des petites scènes comme ça. Et effectivement, la dernière séquence que je dévoilerai pas.
Merci,
avec un long plan séquence qui se termine avec la caméra qui s'élève comme si elle était au-dessus de la mêlée, comme ça, et d'un beau cynisme. Non, c'est un film, c'est vrai qu'on peut être critique si on ne connaît pas vraiment l'histoire, mais il est quand même vraiment à voir, oui.
Eh bien, ton avis a évolué, parce que pendant la séance, on s'est quand même regardé 2-3 fois en se faisant « on s'ennuie ».
C'est vrai que les meilleures séquences ne sont pas au début, et c'est un peu dommage.
Voilà. Donc si vous y allez, ne faites pas comme moi, restez jusqu'au bout. C'est Donbass de Sergueï Leonidza qui passe au Méliès. On va passer maintenant à l'un de mes coups de cœur du mois, un film français, film de gangster aussi, film noir, c'est « Frères ennemis » de David Hulofen.
Vous la connaissez, cette bande ?
C'est pas une bande.
Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble.
Ouais, ils montent des coups. Ils vont là où il y a du fric. Braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit.
Oh, démarre !
Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus.
Je parle pas aux flics, dégage, t'es dit.
Sans moi, t'es mort, Manuel.
Tout le monde qui parle de toi, là. Dis que c'est toi qui as fait Imran.
Il faut que tu trouves qui a fait ça. Sinon, tu ne pourras pas faire taire les rumeurs.
On était amis ?
On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis.
Je te promets, je vais le venger.
Ils veulent m'avoir aussi. Dis-moi ce que t'attends de moi, je le fais.
Tu continues le deal avec les Reyes. Tu dis la carte et je les arrête.
Et toi, tu me donnes le nom des tireurs. Ah, t'aimes ça jouer avec les gens, hein?
Frères ennemis, c'est le troisième film de David Lofen après Nos retrouvailles et Loin des hommes en 2014. L'histoire de deux frères, frères de cœur, pas frères de sang, incarnés par les excellents Mathias Chenard et Reda Kateb, qui sont vraiment tous les deux très justes dans ce film. L'un est flic, l'autre est voyou. Alors c'est un thème déjà vu. Moi, je pense à La nuit nous appartient de James Gray, où on a aussi le frère flic et le frère gangster. Sauf que là, on est dans une ambiance très française et très bien restituée. On est dans la banlieue parisienne sous son jour le plus sombre. Et il se trouve que le personnage de Reda Kateb, donc, qui est flic, travaille au stup et utilise ses anciens amis pour essayer de coincer des gros dealers. Et donc, il va utiliser deux de ses amis, et en particulier le personnage incarné par Mathias Chenard. Disons qu'ils vont, quand je dis utiliser, ce n'est pas au sens négatif du terme. Il l'utilise pour son travail de policier, mais en même temps, il essaye de le sauver. Et parce que son but est de faire tomber tous ces réseaux de trafiquants de drogue de la cité, en fait. Et il essaye au passage de sauver ses amis d'enfance. Donc tous les deux vont être pris dans une intrigue que je ne peux pas complètement vous résumer, mais vous voyez dans quel genre de film on est. Donc c'est du très bon polar noir. Je trouve que beaucoup de choses se jouent là-dedans. Il y a une vision assez juste des cités, une vision assez belle des relations d'amitié, des relations presque familiale entre tous les membres de cette cité, et puis aussi des histoires de trahison. C'est un film qui est assez fort en émotion, où les relations entre eux sont vraiment bien montrées, touchantes. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je n'ai vraiment aucun reproche à faire à ce film. Jean-Pierre ?
Moi non plus, j'ai aucun reproche à faire à ce film. Tu en as tout dit, donc j'ai pas grand chose à ajouter. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a gêné, mais enfin, ce qui tempère mon enthousiasme, c'est que c'est vraiment un sujet qui a été vu 10 fois, 100 fois. Hein.
C'est vrai.
Flic ou voyou, c'est le titre d'un film avec Belmondo. Alors là, c'est beaucoup plus sombre. Effectivement, un sombre qui est très grisaille, parce que tout le film est filmé de manière grise entre le crépuscule et l'aube, là, dans un quartier que je connais pas, mais qui est très très bien filmé, avec des tours impressionnantes qui ont l'air menaçantes, comme ça, qui pèsent sur les gens. Donc c'est un film qui se regarde effectivement avec beaucoup de plaisir. Je peux néanmoins pas dire que c'est mon coup de cœur du mois, quoi. Par le fait qu'on a vu ça beaucoup.
C'est assez classique, mais très bien fait dans son genre. Donc c'est Absolument. Frères ennemis que vous pouvez voir au Pâté ou au Cirex. Et on passe maintenant à un film de science-fiction pour faire plaisir à Jean-Pierre. C'est Upgrade de Leg Vanel.
Je vous explique. 4 types ont buté ma femme. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné.
Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place.
Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre?
Seulement vous. Il va nous falloir un plan.
Je gère.
Je n'ai pas l'impression que ce plan soit bien réfléchi.
STEM!
J'ai besoin de permission pour agir en solo.
Permission accordée!
Merci.
STEM, il a un couteau!
J'ai vu, nous en avons un aussi. Vous avez de nouveau la main, Gray. Il a une arme greffée dans le bras.
Tu savais pas que j'étais un ninja?
Je suis à la pointe de la technologie, je ne suis pas un ninja.
Upgrade, donc, c'est un film de science-fiction australien de Leg Vanel, le réalisateur à qui l'on devait Insidious le chapitre 3, et qui était aussi le scénariste de Saw, le fameux film d'horreur, la saga de film d'horreur. Alors pour moi, comme souvent, il y a une bonne idée au départ de ce film de science-fiction. Une puce a été inventée qui, une fois implantée dans le corps, peut l'upgrader, c'est le titre du film, hein, c'est-à-dire le rendre plus puissant, plus rapide, plus fort, etc. Et donc, le héros du film qui se retrouve tétraplégique après un accident de voiture dans lequel il a perdu sa femme, va être upgradé grâce à cette puce que lui implante le propriétaire de l'entreprise qui a développé ce nouveau processus. Donc jusque-là, pourquoi pas, sauf que très vite, le film se réduit à un film d'action, de vengeance, avec des courses-poursuites, des règlements de compte, et que je trouve que finalement, ça perd tout son intérêt. Je trouve que l'idée de cette puce qui upgrade le corps n'a pas été bien exploitée. J'ai pas bien grand-chose à en dire de plus. Hein. Voilà, je suis assez déçue. Jean-Pierre.
Bah, une fois de plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'attendais pas mal de ce film parce que mes amis de l'écran fantastique l'ont adoré, bien entendu. Mais c'est un film qui, à part le gadget de cette puce et qui effectivement décuple les forces du tétraplégique et lui permet de marcher. En plus, il se parle comme ça, c'est toujours un peu ridicule quand il y a une voix intérieure qu'on fait parler au cinéma et que le spectateur entend. Mais en fait, le thème tel qu'il est traité, ça pourrait être un polar absolument normal. Hein. Un type a un accident, sa femme meurt à cause de la mafia. Il veut retrouver les coupables et les châtier, c'est tout. Et le gadget n'intervient là que pour, effectivement, quelques scènes d'action où il y a des bagarres surdimensionnées, avec quand même une scène intéressante, parce que l'upgradé est opposé à un autre homme transformé qui, lui, crache des nanoparticules métalliques. Et il y a une séquence, c'est la seule qui est vraiment intéressante, où il crache ces particules nanométalliques qui sont invisibles à l'œil nu, mais que la caméra permet de voir, à la gueule de quelqu'un qui le menace et qui étouffe comme ça. Voilà, c'est le seul élément de science-fiction un peu amusant, mais le reste, c'est un petit polar vraiment banal, quoi.
Florence ?
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Hein. C'est vrai que là, c'est vraiment dommage, parce que l'histoire du début, moi, je trouvais ça vraiment intéressant, et ils n'en ont pas fait quelque chose. On voit vraiment... Alors bon, on va dire que c'est l'humain qui limite le potentiel, peut-être, parce que, enfin, ils auraient pu résoudre tous les problèmes dès le début, tellement la puce est puissante, mais non, ça traîne pendant tout le film, on se tape des grandes courses-poursuites de voitures interminables, enfin, tout ça, alors que si la puce était si intelligente que ça, elle aurait pu mettre fin à tout ça directement. Enfin,
en fait, il n'y aurait pas de problème et le film n'aurait même pas eu besoin de commencer.
Ouais. C'est ça. Mais du coup, c'était inutile, tout ce qu'on a vu, parce que enfin, ça n'aurait pas dû avoir lieu si on était un peu cohérent dans le scénario, donc bon.
Bon, vous sentez un très grand enthousiasme de l'équipe sur Upgrade que nous avons tout de même mis au programme puisque nous l'avions testé pour vous. Si vous tenez quand même à aller voir ce film de Lech Vanel, sachez qu'il est programmé au Pathé et Chirol et au Cirex. Allez, on passe à mon coup de cœur du mois. Je sais, j'ai dit que Frères Ennemis en était un, mais là, c'est le coup de cœur numéro un du mois que nous avons vu, Jean-Pierre et moi, c'est A Star Is Born. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try.
Je vais te dire un truc. Aussi loin que je remonte, j'ai toujours su que t'arriverais à quelque chose. Que tu t'en sortirais. Là, c'est la première fois que je m'inquiète pour toi.
Je peux te poser une question indiscrète.
Allez-y.
Tell me something, girl.
T'en écris, toi, des chansons ?
Je chante pas mes propres chansons.
Pourquoi ?
Bah, parce que je le sens pas.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te bloque ?
À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique.
Moi, je te trouve très belle.
I'm falling.
Hey.
Quoi ?
Rien, je voulais juste te regarder.
In all the good times, I find myself longing for change.
Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chanter la chanson que j'adore.
Non, je suis désolée, c'est pas possible. Non, lâche-moi, Jack, s'il te plaît. Arrête, c'est pas drôle. Arrête.
Regarde-moi. Il suffit que tu me fasses confiance. T'as rien à faire d'autre.
Oh, 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 oh.
A Star is Born, c'est le premier film de Bradley Cooper en tant que réalisateur. Vous vous dites, oh là 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 là, une histoire d'amour avec Lady Gaga qui joue le rôle principal. En plus, c'est le premier film de Bradley Cooper. Il a voulu chanter lui-même dedans. Oh là là, je ne vais pas aller voir ce film, ça va être un gros mélo. Eh bien, écoutez, oui, c'est un gros mélo, mais moi, je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était extrêmement bien réalisé, que l'histoire était très forte. On peut lui reprocher d'être un remake, on va dire, parce, puisque l'histoire de Star is Born, c'est l'histoire d'une étoile aînée qui a déjà été filmée 3 fois avant au cinéma. Sauf que là, Bradley Cooper la réactualise, change le style musical. Là, son chanteur qui est sur le déclin, c'est un chanteur de country. Moi, je trouve la musique vraiment superbe dans ce film. Mettre Lady Gaga dans le rôle principal en la démaquillant, en lui enlevant la teinture des cheveux, etc., bah, c'était une bonne idée. Il l'a vraiment mise à nu et elle joue très bien et très naturelle. J'ai trouvé que c'était vraiment une révélation dans ce film. Elle chante elle-même les chansons, évidemment, hein, puisqu'elle est chanteuse. Bradley Cooper a chanté lui-même aussi, donc tous les duos qui sont très touchants. Enfin, vous les avez un petit peu entendus dans la bande-annonce. Moi, je la trouve vraiment magnifique, cette musique. Et voilà, c'est donc une histoire d'amour très, très romanesque, hein, mais ça marche, je trouve. Je les trouve vraiment touchants tous les deux. Et puis, c'est aussi l'histoire d'un Pygmalion qui crée de toutes pièces une star, qui la propulse sur le devant de la scène. Bon, elle a déjà un talent au départ, mais c'est vraiment lui qui arrive à la faire émerger. Et puis c'est aussi l'histoire de deux trajectoires opposées. L'un des artistes est sur la fin de sa carrière, l'autre est en pleine ascension. Et donc, il y a cette rivalité qui se crée au sein du couple, ce qui crée forcément une relation un petit peu compliquée. Et j'ai trouvé que tout ça était montré de manière très juste. Donc voilà, c'est un film, moi, qui m'a vraiment, vraiment émue. J'en suis ressortie très enthousiaste. Je n'ai pas versé de larmes, mais j'aurais pu. Et Jean-Pierre a versé une petite larme, lui.
Oui, non. Je ne sais pas si j'ai versé une petite larme, je ne me souviens pas. Mais c'est vrai que c'est c'est un film sur la musique, c'est un film sur les concerts, c'est un film sur la chanson. Donc moi, j'adore ça, le country rock, j'adore ça. Peut-être que je ne comprends pas toujours les paroles. Peut-être qu'il vaut mieux, parce que c'est bon, c'est des chansons.
Elles sont
des chansons,
traduites dans les
des
soucis,
chansons,
souvent.
D'accord, qui sont chantées pour les Texans, ras du front. Mais effectivement, l'histoire d'amour est sans affect, sans pathos. C'est souvent, c'est des regards, c'est des paroles. Il n'y a pas de scène de sexe comme ça exacerbée. Et en même temps, le côté Pygmalion est un peu atténué parce que c'est pas elle qui empêche sa carrière, mais lui, il arrive à la quarantaine où il la dépasse. Et surtout, il est un peu trop porté sur la bibine. Et c'est ça plutôt qui fait qu'il est sur la pente descendante. Hein. Et en même temps, on note bien que le producteur du personnage de Lady Gaga la pousse effectivement pour qu'elle redevienne, si on veut, la Lady Gaga qu'on connaît, en lui faisant teindre ses cheveux, en mettant des tas de lumière autour de la scène. Et on sent que
c'est ça qui est intéressant.
C'est ça
aussi,
qui est intéressant.
C'est un petit peu elle
devient une vedette, mais parce qu'on la pousse, c'est parce qu'elle est manipulée. Et c'est ça qui est très bien. Et il y a ces deux aspects comme ça, la sincérité.
On voit bien que son destin lui échappe.
Voilà,
aussi.
Oui, la sincérité incontestable et du personnage et des acteurs qui les incarnent. Et puis tout ce qui est autour du business, quoi, du business de la scène. Et il faut dire que si on est tellement pris par ce film, c'est que ça a été tourné lors de vrais concerts de Lady Gaga et d'autres, la caméra simplement filmant Bradley Cooper qui chante effectivement lui-même.
Ils ont fait venir les fans de Lady Gaga en figurant. Donc évidemment, ils n'ont pas eu de mal à trouver des figurants bénévoles.
On peut vraiment créditer Bradley Cooper qui est réalisateur, qui est coproducteur, qui est co-scénariste, qui a écrit la plupart des chansons et qui les chante lui-même. C'est vraiment un film, un vrai film d'auteur, quoi, voilà.
Eh bien voilà, c'est dit, donc allez le voir, Star is Born de Bradley Cooper qui est projeté au Pathé et à la Nef. On enchaîne avec un film français, plutôt film social, c'est le film de Guillaume Senèze, Nos batailles.
Ok les enfants, vous êtes pas habillés ?
T'as pas préparé les vêtements ?
Putain mais on y va là, oh Elliot, tu peux m'aider ?
Pourquoi on met pas mon pull koala ?
Je vois pas les koalas là, c'est quoi ? C'est ça ?
C'est pas moi !
Ramène ta soeur là ! Fais gaffe au pied, le pied.
T'as des nouvelles ?
Non.
Vous vous êtes engueulée ?
Non.
Elle allait pas bien ?
Je sais pas, maman. Olivier, elle s'est barrée, en fait. Non. Enfin, non, c'est... Bah, quand même. Ça va ?
Mais oui, et toi ?
Faut juste que je m'organise avec les enfants, quoi.
Ah.
C'est un peu compliqué en ce moment, ok? J'ai pas beaucoup de temps.
Tu es pas là?
Je suis là. J'ai pas raconté, on a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas.
Magicien, c'est pour dans quelques
c'est
jours.
Pas magicien.
Et ça, c'est des graines de trèfle à quatre feuilles. Parce que le trèfle à quatre feuilles, après, tu peux faire
mais
des vœux.
Quand même, ça peut me faire
mais, oui, mais carrément.
Ça y est, mon Dieu. Ah, tu m'étonnes qu'elle soit barrée.
Nos batailles, deuxième film de Guillaume Senez après Keeper. C'est un film qui a été sélectionné la semaine de la critique à Cannes cette année, en 2018, qui est centré sur Olivier, incarné par Romain Duris, qui est un ouvrier ou plutôt une sorte de contremaître. Hein. Il est chef d'équipe en fait dans une usine. Il est syndiqué, il lutte pour les droits de ses collègues, donc il n'hésite pas à s'opposer à la direction. Et puis en même temps, on suit sa vie familiale, sa femme, ses deux enfants, femme qui rapidement va le quitter puisqu'on comprend bien qu'il est beaucoup trop accaparé par son travail et par son rôle de militant au syndicat. Donc elle s'en va et c'est là que commence vraiment le film puisqu'il se retrouve tout seul à gérer le quotidien, les deux enfants dont il ne s'occupait pas beaucoup avant. Donc voilà le thème du film. Alors intéressant, sauf que dernièrement on a vu pas mal de films sociaux français sur le thème du chômage, des licenciements. Je pense à Vent du Nord qui était très bien dernièrement avec Philippe Rebaud. Des films sur ce militantisme, sur le syndicalisme. Je pense, ça y est, j'ai le titre.
Le truc avec Sandrine Bonner, là, vers le sud.
Alors, il y avait Suicide
et En Guerre.
Et surtout En Guerre, voilà. Merci Adrien, avec Vincent Lindon, qui dernièrement montrait bien cet aspect-là et de manière plus forte, je trouve. Donc, je trouve que là, ça passe finalement au second plan. Et puis, ce qui me gêne, c'est que l'histoire de la famille sonne parfois assez faux. Je trouve Romain Duris, comme toujours, très bien. Mais alors, je trouve que toutes les femmes qui l'entourent, que ce soit son amie du syndicat, incarnée par Laure Calamy, sa sœur incarnée par Laetitia Doche ou encore Lucie Debay qui joue sa femme, je trouve qu'elle joue toute faux. Et alors du coup, pour moi, il y a plein de scènes qui sortent de la fiction et qui mettent un bémol sur ce film qui aurait pu n'être pas si mal. Parce que voilà, voir ce père se débrouiller au quotidien avec ses enfants, où c'est un thème d'actualité. Et bon, voilà ma réserve sur un film que je n'ai pas envie de déconseiller. Mais qu'Adrien va déconseiller de toute façon.
C'est un style très particulier en fait. C'est le film social français tourné en région Rhône-Alpes. C'est très important. Du coup, ça fait vraiment très téléfilm France 3. Et vraiment, mais j'étais atterré par tout ce que je voyais quoi. Dès qu'il allait se passer quelque chose, je me suis dit mais non, ils vont pas aller là. Si alors déjà ça commence par le suicide d'un de ses employés. Après sa femme se casse. Après il a un complexe oedipien parce que son père était engagé au syndicat. Mais non, tu vas pas t'engager au syndicat, mon chéri, tout ça. Ensuite, non mais c'est terrible, en plus la seule scène de réunion syndicale, c'est des syndicats qui boivent du vin comme ça, mais enfin ils parlent jamais de choses concrètes, de lutte, de militantisme aussi. Ah, à un moment donné, il va faire l'amour à sa collègue syndiquée, super, génial, c'est tellement mal écrit, mais c'est hallucinant. À un moment donné, je m'attendais à la scène au bord de la plage avec les enfants et la famille réunie. Heureusement, on nous a épargné ça. Alors, bien sûr, ils sont dans une classe sociale pauvre, mais on regarde Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré parce qu'il faut pas déconner quand même. Et comme dans Paris de Christophe Honoré, ils lisent un livre de l'école des loisirs. Alors dans Paris, c'était Loulou. Là, ils lisent un livre de Claude Ponty. Super. Parce que bon, on va pas lire, je sais pas moi... d'autres livres, bref, c'est nul, j'ai été affligé par ce que j'ai vu. Et alors le pire, c'est Laetitia Doche quand elle arrive, du coup c'est la 15e fois qu'elle arrive dans un film français avec son sac quechua sur le dos comme dans Gaspard va au mariage. Et là, mais elle joue tellement mal, mais les gamins après ils font une fugue, mais moi aussi à mon anniversaire t'as Laetitia Doche qui fait le clown et tu m'offres un cartable, bien sûr que je fais une fugue, c'est normal quoi. Donc du coup c'est lamentable et ce film n'a pas eu l'avance sur recette du CNC et des fois on se dit que c'est pas mal l'avance sur recette parce que ces films arrivent à se monter quand même, et c'est tellement lamentable, mais j'ai été horrifié alors que tous les autres films dans ce style cette année étaient superbes, dont Vers le Sud et Yvan du Nord, donc c'est un peu, ça m'a énervé, mais vraiment je suis ressorti de la salle, j'étais en colère, et surtout que je venais de voir I Feel Good avant qui m'avait ravi, mais là filmer les ouvriers de cette manière-là, en plus en scope, ça sert à rien, juste pour filmer la grandeur des locaux d'Amazon. Amazon c'est pas bien, c'est bon, on a compris quoi, c'est nul.
Allez Adrien, calme-toi. Je suis désolée. Jean-Pierre n'ira jamais voir ce film du coup, c'est sûr, il n'avait déjà pas envie de le voir. Florence, c'est fini aussi, elle n'a plus envie d'y aller, et vous non plus probablement.
Je suis désolé.
Derrière votre poste de radio. En tout cas, si jamais vous avez quand même envie de le voir, si vous êtes fan de Romain Duris, par exemple, c'est Nos batailles de Guillaume Senès que vous pouvez voir au cinéma Le Club. On enchaîne avec un film non pas français, même si la réalisatrice est Mélanie Laurent, film américain tourné aux États-Unis avec des acteurs américains, c'est Galveston.
Tu te rappelles quand on est allé à Galveston? On a eu de bons moments. Tu te rappelles?
Roy, j'ai du boulot pour toi.
Viens, foule-con. Bouge-toi! On aurait dit un genre de traquenard.
Ils m'ont dit que j'étais la suivante.
Ils peuvent pas nous laisser filer. La seule chose à faire maintenant, c'est foutre le camp et trouver un endroit où on sera tout petit.
On pourra faire tout ce que tu voudras.
Tu me dégoûtes. Sois réglo avec moi. Et je serai réglo avec toi. Putain, c'était quoi ça?
C'est ma sœur Tiffany. Je vais veiller sur elle maintenant.
Tu l'entraînes dans nos histoires. Tu as pensé à ça?
C'est vos filles?
Mes nièces.
Vous êtes qui en fait?
Je suis qu'un gars qui a fait son possible pour sortir deux gamines de leur merde.
Je veux juste que ce gars comprenne le message, ok?
Rocky!
Galveston, le nouveau film de Mélanie Laurent, qui commence à avoir une belle petite filmographie. Hein. Mélanie Laurent, l'actrice française, a déjà réalisé Les Adoptés, Respire, Demain, qu'elle a co-réalisé, ou encore Plongée. Moi, je les avais tous adorés. Et alors là, je vous le dis tout de suite, j'ai détesté ce Galveston, qui est un film de commande hein, que lui a proposé une production américaine, qu'elle a accepté et pour laquelle elle dit que finalement, elle a eu le final cut. Je ne sais pas si c'est complètement vrai. En tout cas, donc c'est un road movie, tout ce qu'il y a de plus classique, un petit gangster de la Nouvelle-Orléans qui est poursuivi par son boss qui veut le liquider et qui, en chemin, rencontre une pauvre fille qui se prostitue, qui est très jeune et qui fuit, elle, un beau-père violent. Donc tous les deux se retrouvent en cavale et vivent quelques petites parenthèses heureuses ensemble. Quelques petites parenthèses heureuses hein, au milieu d'une vie quand même très noire, avec beaucoup de coups durs. Ils sont souvent pris en chasse par les hommes du boss du héros, donc incarné par Ben Foster. Elle, c'est Elle Fanning qui l'incarne. C'est une actrice montante aux États-Unis, mais que je n'aime pas beaucoup, moi, qui joue toujours la petite biche blessée, je trouve. Et voilà, film très classique, vraiment road movie noir, avec beaucoup de scènes de nuit, beaucoup de scènes qui se passent. Aussi parmi les gangsters, enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de bien original, et surtout, j'ai trouvé que ce film était très mou, très lent, moi, je me suis beaucoup ennuyée, donc c'est quand même dommage aussi pour un film de cavale qui pourrait être plus nerveux. Je ne me suis pas beaucoup attachée non plus au personnage de Ben Foster et d'Elle Fanning. Voilà, j'étais trop ennuyée, je pense, pour arriver à les trouver attachants, ou... Peut-être que leurs portraits n'ont pas été assez bien dressés, je ne sais pas, mais je suis très déçue parce que, comme dirait Adrien, parfois j'aurais aimé ce film, mais non. Jean-Pierre, ton avis sur ce Galveston?
Pour la deuxième ou la troisième fois, comme tu parles avant moi, tu as tout dit et je suis d'accord avec toi, bien sûr, c'est un film de Mélanie. Qu'est-ce que je suis venu faire là, Laurent? Et effectivement, on se demande pourquoi elle a voulu tourner ce film américain. Je ne sais pas de quelle manière elle a participé au scénario, à supposer qu'elle l'ait fait. Mais c'est les frères ennemis on a vu ça 100 non, fois. Non, là, on a vu ça 100 000 fois, quoi, voilà. Ouais. C'est un road movie. Le mec et la fille partent dans la nuit. Ils s'arrêtent dans des petits motels. Puis à la fin, ben voilà, les gangsters. Les gangsters les rattrapent.
Mais non, on ne dira pas.
Mais c'est pas tout à fait la fin, parce qu'il y a encore.
Les gangsters leur font un gros câlin.
Parce qu'il y a encore une autre fin, et puis après, il y a encore une autre fin. Mais on s'en fout complètement, parce qu'effectivement, malheureusement, les personnages n'ont aucun charisme, il ne se passe rien entre eux et il n'y a rien sur l'écran, quoi, voilà.
Bon, bah écoutez, on est bien désolé de vous présenter des films qu'on n'a pas aimés, mais bon, quand c'est le cas, il faut le dire, c'est Galveston de Mélanie Laurent qui est projeté à la Nef et au Pathé et Chirol. On va terminer quand même avec une note positive, un film, en tout cas que moi j'ai aimé, je ne sais pas ce que Florence va en dire, on l'a vu toutes les deux, c'est le nouveau film de Damien Chazelle, First Man, le premier homme sur la Lune.
Tu es sûr ?
C'est une belle aventure.
Le premier homme sur la Lune. T'imagines un peu ?
La mission qu'on a choisie est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'on va être obligé de repartir à zéro.
Vous pouvez y aller.
Ce n'est que lorsqu'on maîtrisera ces tâches qu'on envisagera d'atterrir sur la Lune.
Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol.
Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête.
Ouais, mais ça va nous pulvériser comme une bombe atomique si ça explose.
Le module n'est pas encore assez sûr.
C'est ici qu'on doit échouer, si on veut pas échouer là-haut.
C'est pas un vol comme les autres. Tu vas pas au bureau.
Tu vas revenir à la maison ?
Il y a des risques, mais on a bien l'intention de revenir.
Est-ce que quelqu'un a un couteau suisse ?
Un couteau suisse ? C'est une blague ?
Ça y est, c'est bon.
6, 5, 4, 3, 2.
Vous vous êtes déjà demandé si ça valait le sacrifice financier et humain ?
Quand on regarde le ciel d'ici, on pense pas trop à tout ça. Mais explorer l'espace, ça change la perspective.
First Man, le premier homme sur la Lune, réalisé par Damien Chazelle, donc, dont je trouve qu'à chaque fois les films sont surestimés. Hein, je rappelle que c'est le réalisateur de Whiplash ou de La La Land, que je n'avais pas du tout aimé. Et là, eh bien, j'ai adoré ce film qui raconte tout simplement les premiers essais de voyage sur la Lune jusqu'à la réussite le 21 juillet 1969, le jour où Neil Armstrong, astronaute américain, était le premier homme à marcher sur la Lune. Donc l'histoire, on la connaît, on sait qu'il y est arrivé, qu'il a mis le pied sur la Lune, qu'il en est revenu. Malgré tout, on est tenu en haleine tout le long du film parce que, alors on suit aussi son histoire personnelle et ses quelques tragédies. On suit aussi toutes les tentatives d'aller sur la Lune à partir de 1961. Donc on voit aussi tous les échecs qu'il y a eu, les morts que ça a pu occasionner parce qu'il y a quand même quelques astronautes qui ont laissé leur peau. Et c'est vraiment intéressant de voir comment évolue leur fusée, par exemple, quand on voit les boîtes de conserve dans lesquelles ils montent au début et qu'on se dit qu'ils vont se propulser jusqu'à la Lune avec ça, on frémit pour eux, franchement. Voilà, sinon... Donc ce film qui m'a beaucoup plu a aussi le mérite, je trouve, de montrer l'arrivée sur la Lune d'une manière assez originale, en restant centré sur le personnage principal incarné par Ryan Gosling, c'est-à-dire qu'on est dans le silence total. Comme lui, quand il est arrivé sur la Lune, on n'a pas une grosse musique pompière à la Star Wars ou je ne sais quoi. On le voit qui observe le sable, qui pose ses pieds sur le sable tout doucement, lentement. Et c'est un moment qui est assez poétique, j'ai trouvé ça très beau, et pas du tout filmé à l'américaine avec les violons, le drapeau américain en gros plan, etc. Donc ça m'a beaucoup plu aussi pour ça. Voilà, après on pourrait reprocher à Ryan Gosling d'être toujours mutique et sans expression, mais là encore une fois on lui propose un personnage qui est comme ça, qui est quelqu'un d'assez renfermé, d'assez solitaire, qui a vécu un drame familial... Donc, ben voilà, il le joue bien, quoi. Mais c'est vrai qu'il ne sort pas beaucoup de son registre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Florence, est-ce que tu me suis ?
T'as tout dit, encore une fois.
C'est pour ça que je prends la parole en premier.
Tu vas faire l'émission toute seule bientôt. Hein.
Mais c'est ça, oui. Moi, j'ai bien aimé. Après, je ne dirais pas que c'est un film que j'ai adoré. Mais c'est... en effet, on est tenu en haleine tout le long. On se cramponne au siège alors qu'on sait la fin. C'est ça qui est fou quand même. Mais c'est très bien amené. J'ai trouvé aussi, bon, bah, en effet, qu'il est complètement inexpressif, Ryan Gosling. Mais c'est justifié en effet par le scénario, par son rôle, son personnage. Donc, ce n'est pas gênant. J'ai trouvé intéressant aussi de voir le côté guéguerre avec la compétition complètement puérile entre les dirigeants américains et les Russes, où on voyait vraiment ce concours ridicule qu'ils avaient.
Mais c'était ça.
Oui, mais c'est pathétique. Il y a des vies en jeu dans ce. Enfin bon, bref. Et du coup, c'était intéressant de voir ça, de voir tous les pots cassés, comment ils se lancent sans filer. C'est pour ça qu'il y a eu tant de morts, parce qu'ils sont en pleine course à cause de cette guéguerre, justement. Enfin bon, et c'est. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien intéressant et j'avais jamais vu. Filmé de cette façon, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que ça montre vraiment le côté plus humain d'Armstrong. Donc ça, je trouvais ça intéressant.
Eh ben, on est deux à vous recommander d'aller voir First Man. Je sais que Jean-Pierre le verra, mais tu ne l'as pas encore vu à l'heure où nous enregistrons.
Peut-être
nous aurons donné.
C'est
aussi
un peu la suite de l'étoffe des héros, si je comprends bien, quoi. C'est un voilà.
Exactement.
Une reconstitution documentaire de ce qui est vraiment arrivé. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. Attention.
Et non. Et donc, c'est un film que vous pouvez voir, je rappelle, donc First Man de Damien Chazelle, que vous pouvez voir au Pathé, qui l'a projeté d'ailleurs en avant-première. On finit cette émission dans les quelques minutes qui restent avec quelques coups de cœur. Je sais qu'Adrien en a un. C'est le film Leave No Trace qui est programmé, si je ne m'abuse, au club.
Au Méliès. Et oui, Leave No Trace, c'est vraiment un film magnifique. Alors, je sais que ça fait penser à une réalisatrice que vous détestez tous les deux, qui est Kelly Richard. Et du coup, c'est un film qui se passe dans l'Oregon, sur l'histoire d'un ancien vétéran de l'Irak et de sa fille qui vivent complètement retirés de la société. Et je connais 150 personnes qui ont vu le film et on a tous une interprétation différente. Du coup, certains disent que c'est une réflexion sur la propriété, d'autres disent que c'est un film post-apocalyptique qui fait penser à La Route. Donc voilà, c'est un film très très impressionnant qui prend vraiment pas le spectateur par la main et qui fait confiance à l'intelligence du spectateur. C'est vraiment merveilleux et avec une jeune actrice incroyable. Et la réalisatrice avait réalisé Winter's Bone. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film dans les Rocheuses très impressionnant qui avait révélé Jennifer Garner.
Non. On reverra, enfin on verra tout court. Et puis on note d'aller voir Leave No Trace au Méliès. C'est vrai que c'est un film qui avait attiré mon attention aussi. Merci Adrien pour ce coup de cœur. Jean-Pierre, un mot pour finir ?
Oh ben j'ai vu Venom parce que c'est un film de science-fiction, effectivement très classique, dans le genre Blob. Une fusée expérimentale se crache sur Terre, il y a un parasite qui en sort et qui colonise quelqu'un. Ça aurait pu être intéressant parce que le Venom, c'était un des grands adversaires de Spider-Man, qui vient d'une BD de Todd McFarlane, qui est un dessinateur absolument extraordinaire. Mais là, c'est un blockbuster vraiment très très banal, qui fait pas peur, et c'est bien le pire des paradoxes, quoi, parce que cette créature filante avec des grandes dents de requin est plutôt ridicule qu'autre chose. On peut le voir naturellement. Et si on le voit, allons au Pathé et Chirol avec la salle 4DX, avec les fauteuils qui tremblent, alors que dès qu'il y a une poursuite en voiture ou une bagarre, le fauteuil s'agite dans tous les sens. On reçoit du vent dans la figure. Et quand le Venom ouvre sa grande gueule, on reçoit même quelques postillons dans la figure.
Ah,
extraordinaire.
Alors, et on sent sa mauvaise haleine aussi
Malheureusement, il n'y a pas encore d'odorat. J'espère que ça viendra. Mais on peut aller le voir pour ça. Mais autrement,
que le Pathé et Chirol s'est équipé récemment.
C'est la seule salle du département qui est équipée de ça pour le moment.
Exactement.
Alors, si on veut s'amuser et si on n'a pas peur d'être bien secoué,
si on aime et la fête foraine et les films de super-héros et qu'on n'a pas peur des clichés dans ce genre de film, eh bien, on peut y aller. C'est donc Venom, au Pathé et Chirol.
Tout à fait.
Merci Jean-Pierre. Pas de coup de cœur, Florence non plus, ou en tout cas c'était déjà dans le programme. Moi c'était Star is Born ou Frères Ennemis. On espère qu'on vous a donné envie d'aller voir quelques films et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour commenter encore un mois de cinéma.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. de l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma sinon rien.